Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca. Deuxième émission de la saison. Et oui, on se fait rare cette saison, mais c'est pour vous servir un contenu de qualité avec une équipe de feu. Ce soir à l'émission, nous avons Myriam Bernet, Tessie Jean-Paul, Ryan Roumiguère ainsi qu'Étienne Tardy-Paradis. Vous écoutez Émilien Roscanou à l'animation et à la régie aujourd'hui, donc soyez indulgents. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant, le photojournalisme. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous ce soir, parmi les chroniqueurs, qui êtes allés au World Press Photo.
Bien sûr.
Cette
année.
Oui.
Rendez-vous immanquable chaque année.
C'est déjà fini en plus?
Non, ça finit dimanche.
C'est à chaque année?
Oui, c'est à chaque année.
Ok, ouais. Je pensais que c'était...
Tessie, malheureusement, un emploi du temps un peu trop chargé, elle n'a pas pu y aller. Ryan, est-ce que tu es allé au World Press Photo?
Non, je suis allé l'année dernière, mais pas cette année.
Okay. Moi, je me fais un point d'honneur d'aller le voir chaque année parce
Très
que je trouve ça super intéressant.
Oh, ouais. Effectivement.
C'est toujours des photos coup de poing.
Effectivement.
Ben, écoutez, on va commencer avec toi, Ryan. Ryan, tu t'es penché un peu sur l'histoire du photojournalisme. Tu nous fais un petit tour d'horizon de la question, un petit historique.
Exact. Bon, alors, en fait, on a souvent entendu dire « une image vaut mille mots ». Et si on regarde l'histoire du journalisme, ou plutôt comment l'information a été transmise au fil du temps, on peut alors comprendre le sens de ce dicton. En fait, si on regarde un peu en arrière, on peut se rendre compte que la volonté de représenter la réalité est présente depuis très longtemps. Alors, je pense d'abord aux pétroglyphes néandertaliens qui remontent à environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. On peut aussi penser à la cartographie, aux peintures historiques et j'en passe. Mais c'est plutôt vers la fin du Xe siècle qu'on peut retracer les origines de la photographie. La connaissance des hommes dans le domaine de la physique et de l'optique a permis d'appréhender le phénomène de la chambre noire. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler ici?
Bien sûr.
Oui. Bon, alors, la chambre noire, pour ceux qui ne connaissent pas, est en fait un instrument optique. C'est en quelque sorte l'ancêtre du rétroprojecteur. En fait, il s'agit de faire passer la lumière dans un tout petit trou. On obtiendra une image projetée. Cette image représentera ce qu'il se passe à l'extérieur de la chambre. Donc après cette fameuse chambre noire, les scientifiques ont inventé les lentilles au XVIe siècle. Puis des recherches ont été faites pour trouver la façon dont on pouvait obtenir une image permanente. Petite question à vous, selon vous, quand remonte la première photographie?
Moi, c'est de la triche, j'ai étudié en photographie. Ah. Donc...
Pas le droit de répondre, Myriam.
Ouais, j'ai pas le droit de répondre, j'ai la réponse, mais je vais voir si quelqu'un d'autre.
Moi, je dirais 1812.
Pas loin.
Mais j'ai la chronique de Ryan sous les yeux, ça aussi c'est de la triche, mais,
juste un peu plus tard.
Mais je vous jure que j'ai pas lu la date.
Ça remonte tellement longtemps, les cours de photo, là. Moi, je sais pas pourquoi j'ai une date en tête, mais ça se peut que ce soit tellement pas ça. 1929.
Non, avant. Non.
Ça remonte pas au premier iPhone? Non?
Okay. Quasiment.
L'iPhone qui a tout réinventé.
C'était quoi, 1826 ou 1827? Ah, une photographie de Nicéphore Niépce.
Proche
de Chalon-sur-Saône,
en
France.
Je te félicite pour tes cours de photo. Vraiment...
Encore des Français qui inventent tout. Encore des Français.
Les Français, non.
Mais au moins, les Roumains ont inventé l'avion à réaction, les Roumains ont inventé le téléphone, l'Internet, la poudre à canon. Vas-y, Ryan.
En tout cas, il y a un fait un petit peu insolite avec cette photo, justement, c'est que la prise a duré entre 8 et 10 heures, donc ce qui est énorme pour ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas.
Effectivement.
Mais bon, revenons à nos moutons. Alors, la photo est vraiment entrée dans la sphère journalistique en 1826, et ce grâce au journaliste Roger Fanton, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais bon, j'imagine, qui était parti photographier la guerre en Crimée. De là, on a vu une couple de journalistes s'adonner à cette pratique du photojournalisme. Donc. Des noms comme François Aubert, qui a photographié la guerre à Mexico et l'exécution de l'empereur. Matthew Brady, qui a photographié l'exécution des comploteurs qui avaient tenté d'assassiner Lincoln. Et j'en passe. En passant, j'ai juste une petite anecdote. Est-ce que vous savez combien pesaient les appareils photo à l'époque? Bon, tu répondras à la fin si personne ne trouve.
Petit quiz pour Étienne. Étienne, t'en penses quoi?
Je crois, bonne question, probablement le même poids que les personnes qui la transportaient, question de, d'efficacité.
Pas loin.
Pratiquement, oui.
Ouais.
Pour vrai, j'ai une bonne réponse.
Ben, pas loin.
un peu moins lourd, je pense, que, ouais, que la personne qui transportait. Mais...
Ouais, c'était environ 40 kilos.
40 kilos pour ceux qui nous écoutent à la maison et qui ne savent pas c'est quoi des kilos.
Oh, désolé.
Nous, on sait, mais bon, pour le commun des mortels, c'est à peu près 100 livres, quelque chose comme
ça. Voilà. À peu près.
Bon, en tout cas, au fil des années, les appareils se sont perfectionnés et allégés, comme on le sait tous. De plus, le photojournalisme a également évolué. En fait, Jacob Riis, et Lewis Hine ont commencé à produire des clichés dans un but plus social. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des photos pour dénoncer des conditions sociales terribles ou alarmantes au grand public. Et c'est à partir de là que, selon moi, à partir de ce genre de pratique, justement, on peut rencontrer plusieurs problèmes d'éthique. Par exemple, le principe du photojournalisme est totalement louable, puisque théoriquement, le photojournalisme doit représenter la réalité telle qu'elle. Cependant, le manque de contextualisation peut biaiser la perception d'une photo.
De quelle façon ?
Ouais, si on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne peut pas... Par exemple, en fait, ouais, je pensais au cliché d'Eddie Adams. C'est un cliché super connu montrant l'exécution d'un homme pendant la guerre du Vietnam. Je pense que vous l'avez tous vu.
Mm-hmm.
Ouais.
Oui.
Bah, alors, si on n'a pas l'explication derrière, c'est un peu compliqué de... Enfin, c'est plutôt facile de mal l'interpréter, en fait. Je pense que vous êtes d'accord
avec
moi.
En fait, il y a une possibilité d'instrumentalisation de n'importe quelle image prise hors de son contexte.
Exact.
Mais dis-moi, d'où te vient cette analyse, Myriam?
Des années d'études et de recherches à ce propos.
Autre problème qui se pose selon moi, et qui est tout aussi grave, c'est la mise en scène des photos. À partir du moment où un journaliste a le pouvoir de prendre la photo qu'il veut avec la mise en scène qu'il veut, cela peut devenir très dangereux. D'ailleurs, selon le Times, en fait, plus de 20% des participants au World Press ont été éliminés au cours de la compétition pour manipulation de photographie. Finalement, avec le photojournalisme, on en revient au même problème d'impartialité que l'on peut rencontrer dans la presse écrite. Il faut sans cesse se méfier des intentions, du parti pris et des convictions, de celui qui prend la photo ou de celui qui la diffuse. D'autant plus que, selon moi, une photo est facilement manipulable ou modifiable.
Le pouvoir des images, on a étudié beaucoup la question... dans nos cours au bac en communication et politique avec Myriam.
Exact.
Ben toi aussi, Ryan, tu es en train de le voir.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est très dangereux, le pouvoir de ces images-là.
Mais en fait, moi, mon interrogation, et qui dure, ça fait des années que je m'interroge là-dessus, puis le truc, c'est qu'il n'y a aucune objectivité qui est possible, parce que par exemple, quand un photojournaliste part dans une zone en conflit, souvent il est accompagné ou proche d'une armée qui est là en quelque sorte pour le protéger d'éventuels problèmes. C'est pas automatique, mais ça arrive quand même souvent. Et de ce fait, quand t'es dans cette ambiance-là avec ces personnes-là, automatiquement tu vas avoir un point de vue biaisé tout de suite parce que c'est pas ton terrain, entre guillemets, c'est pas ton territoire, c'est pas ta maison, tu parles pas la langue, tu connais sans doute personne sur place ou pas encore, et de ce fait tu ramènes en fait ta vision, par exemple si t'es un ou une photographe occidentale, ben tu vois ça avec cette vision là et tu ramènes un certain type d'image que tu sais que qui vont intéresser le monde, mais juste de par l'acte de photographier, l'objectivité, comme avec l'écriture d'ailleurs, je pense qu'elle est impossible.
Surtout quand elle passe par un objectif.
Pas mal, Emilia.
Moi, je voulais juste venir avec un petit exemple, justement, que j'ai appris aussi à l'école, durant mes cours de photographie. C'était un photographe aussi, qu'on appelle un peu pionnier de la photographie, Hippolyte Bayard, je pense que c'était la première mise en scène en photo, donc qui s'est mise en scène mort, je pense noyé, si je me rappelle bien.
Oui.
Donc, comme quoi qu'il était, il était noyé en fait par le fait que il avait jamais eu de reconnaissance de la part de ses pairs.
Il n'avait pas de fond.
Exactement, il avait rien. Donc, je pense que Monsieur Bayard est vraiment venu en fait chambouler l'idée de l'objectivité de la photo, parce que une photo, ça semble tellement réel, ça semble tellement vrai, c'est tellement tu sais, ça peut pas être contredit, tandis que en un seul cliché, tu sais, qui a peut-être pris des heures, mais il a pu vraiment tout déconstruire, tout qu'est-ce que les gens pensaient sur la photographie et l'objectivité d'une photo. Et ça remonte à quoi? 1800? Fait qu'imagine aujourd'hui comment, avec tout qu'est-ce qu'on a, les outils qu'on a, comment on peut détourner une photo de son sujet d'origine, en fait.
C'est
une
vraiment photo, c'est jamais banal. Exemple. Ouais, complètement. Puis surtout, comme tu dis, avec les outils qu'on a maintenant, c'est tellement facile.
Ouais.
De trafiquer les images.
Puis, puis même pas d'être trafiqué comme tel, mais des fois, si on regarde juste des images en politique, quand tu prends quelqu'un qui fait un discours en photo, mais tu peux avoir des images super belles, tu peux avoir des images super laides, dépendamment aussi de ton angle. Mon coloc a fait des cours de photo, puis il m'a expliqué, puis je m'en souviens plus, mais vous pourrez nous le dire.
Mais, oui.
Quand tu prends un grand angle, personne paraît beau parce que leurs visages sont plus bouffis, ont l'air plus...
Ouais, ils sont plus étirés, selon l'objectif que tu utilises.
C'est ça. Donc même, il y a des choix éditoriaux de faire paraître sous un mauvais jour certains politiciens.
Exactement ça.
On l'a vu... très souvent pendant la campagne aux États-Unis
avec
Trump dans certains médias et Hillary Clinton dans d'autres médias. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias comme Breitbart ou encore Alex Jones là, qui aime dire que Clinton c'est une envoyée de Satan. Là. Ben, les images qui montraient de Clinton, c'était jamais les plus belles.
Ah non, c'est sûr.
On s'entend.
Et c'est avec ça, on peut aussi deviner les choix éditoriaux de certains journaux parce qu'effectivement, selon... le journal, soit là, c'est une personnalité politique super bien mise en valeur, soit c'est vraiment les pires photographies cherchées dans le tréfonds de l'appareil, tu vois. Donc non, c'est vraiment super intéressant.
Puis est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous viennent en tête ou des endroits où les photos pourraient être instrumentalisées de cette façon-là aussi?
Hors des médias, tu veux dire?
Hors des médias,
sur les réseaux sociaux?
Ben, simplement pour la publicité, par exemple.
Ouais. Publicité,
tout simplement.
Ouais.
Mais même nous-mêmes, comment les gens utilisent leurs photos pour pouvoir se décrire ou pouvoir utiliser les réseaux sociaux.
Il y a
certains angles qui nous favorisent comme d'autres qui ne nous favorisent pas. C'est
mais oui, l'art du selfie. Là.
Exactement.
C'est
comment on paraît plus mince. Ben oui, c'est ça, exactement.
Combien de photos est-ce que tu prends pour... poster
pour finalement la poster, c'est ça.
C'est un gros travail.
N'oublions pas les filtres aussi. Ces fameux filtres qui nous rend encore plus, comment je pourrais dire, occidentaux, quoi.
Exact.
Qui grossit nos yeux, amincit nos nez.
Nous donne un petit nez puis des petites oreilles
puis
de lapin.
La peau plus claire aussi.
La peau plus claire, effectivement. Donc ça, c'est... Je trouve que c'est une autre façon de trafiquer l'image, mais à des buts tellement un peu... pas stupide, mais presque ça.
Une uniformisation des êtres humains.
Petite question à vous qui faites de la photo, là, surtout Myriam, qui en fait de façon un peu plus professionnelle que nous, les autres communs mortels. Est-ce que tu mets des filtres sur ton Instagram ou pas?
Parfois. Mais très léger, quand je veux augmenter ma luminosité ou mon contraste. Mais par exemple, je retouche, je le faisais avant, il y a longtemps, mais je retouche plus du tout les photoportraits que je prends ou peu importe. Ça, j'ai arrêté complètement.
Ça commence avec des petits films, mais après, ça finit avec des sorcières en arrière, des citrouilles, il faut attention, hein, ça se finit tranquillement, mais finalement, après, on est cerné.
C'est clair.
Après, on se met en scène... oui, on peut trafiquer des vidéos.
Mais moi, je suis toujours... Tu sais, je suis pas prête à dire que les transformations, certaines transformations ou retouches sont totalement mauvaises, dans le sens que moi, je trouve ça intéressant. J'ai fait de la photo l'été passé vraiment beaucoup parce que j'ai pris un cours de photo. Et puis, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir récupérer des fois des prises que tu as faites et que tu n'es pas vraiment fière et que en comme une heure de travail, par exemple, sur Photoshop, tu arrives à faire quelque chose de quand même assez intéressant. Donc, je suis pas prête à tout reprendre, mais c'est sûr que dans l'idée justement du photojournalisme, c'est totalement différent.
C'est
dans le
très
sens
différent.
Que c'est pas un pot de fleurs que tu vas embellir là. C'est carrément une réalité que tu vas instrumentaliser à des fins qui sont pas toujours très glorieuses, quoi.
Exactement, oui.
Oui. Puis l'importance de l'image, en fait, depuis que la photographie existe, l'importance de l'image en tant que telle n'a cessé d'augmenter. L'image est omniprésente dans nos sociétés. Combien de gens sont engagés aujourd'hui, combien de gens sont recherchés sur le marché du travail aujourd'hui en marketing, en graphisme, en photographie? C'est phénoménal. Savoir utiliser Photoshop,
c'est savoir utiliser Office il y a 15-20 ans.
C'est vrai, hein? Oui, oui.
C'est vraiment clair. Fou.
Oh, ouais. Tout à fait.
Oui.
Non, c'est ça, c'est un requis, mais comme tu disais, Tessie, par rapport au photojournalisme, c'est que la différence est que ce sont des photographies qui ne sont pas censées être manipulées et manipulables, et pourtant, c'est quand même le cas. Mm. Sans enlever au travail des photojournalistes, évidemment, mais...
C'est ça, mais même dans l'idée du documentaire aussi, je trouve que ça se rejoint, parce oui, que le oui, documentaire oui. aussi, dans le sens que tu montres ce que tu veux bien montrer, tu sais, il y a les parties que tu veux pas montrer, puis souvent, tu sais, la chose qui arrive souvent dans les documentaires, il y a souvent des analyses un peu de haut, comment je peux, tu sais, de façon qui sont pas, comment je pourrais dire, équilibrées.
Ouais, ouais,
donc,
ouais.
C'est ça, donc toute l'idée de mise en scène dans le domaine du documentaire est aussi... vraiment remis en question. Parce
complètement,
que...
ça se rejoint.
Ouais, ça se rejoint beaucoup.
Mm-hmm. En tout cas, moi, je pense que les seuls documentaires valables, c'est ceux de Vision Mondiale. Ils nous permettent d'adopter un petit enfant pauvre en envoyant 20 $ par mois.
C'est clair.
Tu dérives, Emile.
Donc, parce que je dérive, on va peut-être se diriger vers une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en dites?
Très bonne idée.
On a trouvé un artiste. Nous, ici, à la Photomédia, on a une sélection de notre musique très, très rigoureuse. En fait, on prend dans la liste des chansons qui nous sont offertes. C'est toujours des artistes, underground. C'est ça, la culture musicale à choc. Puis, on prend toujours les artistes dont le nom nous fait rire ou nous semble intéressant. Donc, aujourd'hui, on vous propose de découvrir l'artiste Le Diable comme l'outil, entre parenthèses. Vous savez, le petit outil qui nous permet de transporter des laveuses sécheuses en déménagement. Le titre, c'est « Peau sur le lait », L-A-I-T, pour ce que ça veut dire. Et le nom de l'album est très subtil aussi, « Anémie 61 ». Donc, on écoute ça. On est de retour en onde à la Photomédia. J'ai allumé tous vos micros, comme ça on vous entend toutes en ce moment. Donc, ce soir, sujet très intéressant. On a eu une discussion en première partie d'émission. On va continuer sur notre lancée avec Étienne, qui, comme d'habitude, va nous faire une chronique très ironique, très drôle, n'est-ce pas? Donc, Étienne, le photojournalisme dans nos sociétés, c'est un sujet qui t'intéressait aussi dans le courant de tes études. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
C'était pas forcément dans le courant de mes études, mais je pense par la force des choses finit par s'imposer. Mais bon, allons-y pour une petite chronique humoristique. Vous allez bien rire, vous allez voir. Donc, l'écrit persuade, l'image alerte. La société dans laquelle nous vivons accorde une grande importance à l'image. J'entends par ici non pas l'image de soi, mais plutôt la photo. La puissance de la photographie sur l'imaginaire collectif est indéniable. Les clichés exposant les atrocités de la guerre du Vietnam sont encore lourds de sens aujourd'hui. Plus proche de notre époque, l'image d'un enfant syrien mort sur une plage à secouer l'indifférence de l'opinion publique. Ces images mémorables sont le travail de photojournalistes dont l'objectif est de fournir des informations précises et honnêtes en situant les clichés dans leur contexte. Toutefois, la profession est en crise profonde et son mandat public d'informer la population en est menacé. L'impasse dans laquelle le photojournalisme se trouve aujourd'hui est hautement nocif pour toute personne qui consomme de l'information en provenance de la sphère journalistique, et non seulement dans une perspective de photojournaliste, mais aussi dans une réalité qui est plus concrète. Donc, dans cette réalité, plusieurs se posent la question suivante. Devrions-nous intervenir pour aider le photojournalisme ou non? À mon avis, le photojournalisme est une richesse trop précieuse pour qu'on puisse l'abandonner à son triste sort. Dans cette chronique, j'essaierai de démontrer l'importance du photojournalisme pour les personnes qui consomment l'information qui en découle. D'autre part, je vais illustrer les éléments qui menacent la fonction et donc l'information transmise à la population qui utilise ces mêmes renseignements quotidiennement. Dans un premier temps, abordons les répercussions sociales positives du photojournalisme. Il est primordial de saisir, chers consommateurs et consommatrices d'informations journalistiques, que le photojournalisme propose des reportages complets avec texte et images, et cela tout en apportant une perspective personnelle à un sujet spécifique. Cette contribution journalistique offre au public une diversification des sources d'informations et favorise une pluralité de perspectives sur l'actualité et contribue à contrer un monopole de l'information. Imaginons la situation suivante. Si le photojournaliste Nick Hutt n'avait pas immortalisé la fille au napalm en pleine guerre du Vietnam, est-ce que la société américaine aurait connu une accélération de la mobilisation pacifique alors que les médias traditionnels s'employaient à promouvoir les bienfaits d'une intervention militaire?
C'est une bonne question.
Très bonne question que tu vas pouvoir répondre un peu plus tard, je suis sûr. Ensuite, il est essentiel de préciser que le photojournalisme utilise un instrument d'une force redoutable pour mener à bien ses objectifs, soit la photo. De nos jours, la force de l'image est titanesque, car elle est présente partout et à tout moment. Pour le philosophe et linguiste Noam Chomsky, l'image aurait une influence sur l'être humain et plus particulièrement au niveau neurologique. Dans le photojournalisme, donc, le photojournalisme possède un potentiel énorme de conscientisation et voire de mobilisation. Par exemple, en 2015, la photo du petit Alan Kurdi mort sur une plage turque fait le tour du monde et déclenche une vague de mobilisation sur la question des réfugiés syriens. Le photographe turc Nilfur Demir, qui a pris le cliché, affirma par la suite « Peut-être que ma photo a été le déclic que le monde attendait. »
Oui, et puis quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, le conflit est réglé.
Oui, évidemment. Je pense que
ça va être ma chronique à moi. Okay. Pas de spoil.
Pas de spoiler, excusez-moi.
Donc, dans un second temps, regardons les sources de déstabilisation du photojournalisme et donc les répercussions négatives sur la population qui consomme de l'information journalistique. Il est important de saisir que le photojournalisme est violemment secoué par une crise existentialiste dès les années 60. L'auteur et journaliste américain Wilson Hike relève avec justesse que la profession n'est plus en phase avec les enjeux actuels de la communication de masse et progressivement néglige sa vocation première consistant à informer par la photo pour aller vers le sensationnalisme et le consumérisme de masse. La valeur économique des photos est maintenant la variable centrale. Le WordPress photo en est d'ailleurs une bonne preuve. L'attribution d'un prix s'inscrit dans un processus de monumentalisation des images de presse assumé par une distribution massive dans les journaux et autres médias, tels que l'historien de la photographie Vincent Lavoie le laisse entendre. De plus, il faut rajouter à cette première crise existentielle une seconde avec l'arrivée des nouvelles technologies technologies informatiques. Il est primordial de saisir que ces perturbations auront des conséquences importantes sur la crédibilité de la profession. Les technologies numériques permettant une manipulation des images vont remettre en question la confiance du public envers la représentation photographique. Le cas d'Eduardo Martins illustre parfaitement cette situation. Ce dernier a réussi à publier de fausses images chez BBC Brazil, The Wall Street Journal et Vice. Une fois l'escroc dévoilé, inutile de préciser que la confiance du public et des agences de presse s'effrita une fois de plus envers le photojournalisme. Ces deux crises contribuent à dénaturer les bienfaits du photoreportage car ils déforment l'objectif premier de la profession, qui est d'informer le public et brise sa puissance créatrice et mobilisatrice due à ce manque de crédibilité. Au final, le photojournalisme est un trésor pour la société car ce métier peut être un générateur de conscience et une force mobilisatrice ainsi qu'indispensable à une diversification des sources journalistiques. Toutefois, il faut prendre en considération l'impact négatif que la crise existentialiste et numérique ont causé au photojournalisme et subséquemment à son objectif premier et au lien de crédibilité qui existe entre la profession et le public. Le potentiel du bienfait que le photojournalisme peut apporter à la société est trop grand pour l'abandonner à son triste sort. En ce sens, il faut préciser que des efforts ont été faits pour redorer le blason de la profession. Le professeur Vincent Lavoie rappelle qu'un code déontologique développé par le National Press Photograph Association est en place pour contribuer à fixer la reconnaissance professionnelle et corporative à la question de l'éthique, pour ainsi répondre aux deux crises précédemment abordées. Cependant, il serait intéressant d'analyser les conséquences de la pression exercée par le marché de la photographie sur le photojournalisme et plus largement sur le journalisme lui-même. Pour terminer, je lance une toute petite question aux participants et participantes autour de cette table. Est-ce que le photojournalisme va surmonter les crises internes et externes pour ainsi retrouver ses lettres de noblesse?
Est-ce qu'on anticipe trop sur ta chronique, Myriam?
Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ben, j'allais reprendre la question d'Étienne. Je suis très contente que tu aies fait cette chronique, c'est vraiment intéressant. Mais là, par rapport à ta question, justement, tu faisais une critique des prix qui étaient attribués. Et je peux comprendre ton point, mais le fait est que avoir ces prix pour ces photojournalistes-là, c'est déjà une reconnaissance de leur travail sur le terrain et qui est évidemment pas un travail facile du tout. Puis c'est quelque chose qui aide vraiment à accéder à des financements qui n'auraient pas été accessibles avant. Et c'est vraiment pas négligeable dans le contexte économique dans lequel le journalisme et le photojournalisme se trouvent actuellement. Donc je voulais juste amener cette petite nuance parce que c'est pas qu'une question de prestige, puis de retweet, puis je sais pas trop quoi, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand t'es photojournaliste, c'est vraiment comme, tu travailles tellement pour finalement avoir un prix dans ta vie, si t'en as un, puis c'est pas grand-chose à côté du travail et des sacrifices effectués.
Oh oui, moi je pensais que tout ce qu'il fallait pour être un bon journaliste, c'était avoir un iPhone ou autre téléphone dernier cri, puis être au bon endroit au mauvais moment. Je veux dire, c'est une affaire de privilégié aussi, là. Qui a l'argent pour se payer un avion jusqu'en Irak, là, franchement?
Mais justement, c'est vraiment, tu dis ça en riant, mais c'est vraiment une des réflexions que j'ai depuis longtemps, à quel point on est, tu sais, comme moi qui va dans un pays dans un conflit, à quel point j'ai ma place là-bas pour ramener des images. C'est vraiment une très, très bonne question.
Qui souvent, des fois, tu sais, oui, réveille quelques consciences sociales pour un moment, mais pas tout le temps. Moi, je me rappelle, j'avais l'exemple, quand j'avais eu mon cours de photographie, on avait vraiment eu une bonne partie du cours sur le photojournalisme. Mm-hmm. Puis elle nous avait montré des images, dont celle de Kevin Carter, qui avait photographié une petite fille au sud du Soudan, mm-hmm. Qui était, en fait, c'est la petite fille et le vautour. Souvent, tout le monde a déjà vu ça.
C'est ça. Ouais.
Et puis, comme c'est simplement une petite fille qui est très affaiblie, très maigre, qui est presque sur le point de mourir et que le vautour, il est comme quoi, juste en arrière, presque guettant le moment où qu'elle va mourir pour pouvoir ensuite l'achever. Donc, c'est une photo qui a eu beaucoup de répercussions, non seulement sur l'opinion que les gens avaient, justement, sur qu'est-ce qui se passait au Soudan, mais aussi dans le sens que cette photo-là aussi a vraiment eu des répercussions sur la vie personnelle du photographe aussi, dans le sens que je pense que tout le monde a commencé à blâmer le photographe qui n'avait pas, en fait,
Il s'est pas même enlevé la vie.
Oui, c'est enlevé la vie,
trois mois après qu'il a obtenu le prix Pulitzer pour cette image, il s'est suicidé,
Donc, tu sais, ça amène vraiment tu sais, comme un, pas un nouveau débat, mais comme une ouverture sur, OK, pourquoi, dans quelles circonstances. Et finalement, aujourd'hui, cette photo, elle est encore là.
Oui.
On la voit, oui. Mm-hmm. Aujourd'hui, le photographe n'est plus là. Et puis, aujourd'hui, les problèmes de famille ne sont pas réglés au Soudan. Donc,
elle est toujours aussi frappante, cette photo.
Oui, elle est toujours aussi frappante.
La première fois que nous toutes ici l'avons vue...
Effectivement.
Ça va nous chercher.
Mais reste que dans, je pense que c'est, comment qu'elle s'appelle, Françoise David, qui parlait aux médias il y a déjà quelques mois, comme quoi qu'il y avait une famine imminente au centre de l'Afrique qui arrivait et puis qu'il fallait gérer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec cette image-là? Elle est encore là. Finalement, ça fait beaucoup de ravages, autant pour la vie du journaliste, autant pour les gens qui étaient probablement là-bas. Une onde de choc que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive?
Mais, mais cette photo-là, je rebondis un peu. Ça nous fait nous poser des questions non seulement sur le photojournalisme et sur la photographie, mais aussi sur le journalisme en situation de crise, en situation de guerre. Parce qu'il y a plein de questions morales, éthiques qui sont soulevées. Parce que juste aller dans une région dévastée par une catastrophe naturelle ou la famine ou la guerre, puis rencontrer des gens qui vivent la misère extrême, toi, là je parle d'un point de vue occidental, toi, occidental, qui va là pour informer la population dans ton pays, t'arrives là, mais tu prends des photos, t'interviews les gens, mais c'est ça, toute la question, tu pourrais leur venir en aide, est-ce que tu dois t'investir, est-ce que tu dois donner de l'argent, donner de la nourriture, y aller physiquement, ou est-ce que... Moi, je considère que déjà juste le fait de rapporter cette information-là, c'est déjà beaucoup, en faire beaucoup pour amener une sensibilisation puis amener une compréhension. Mais c'est tout un débat éthique. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
Exact. Mais écoute, j'ai pas de réponse.
Mais moi, je pense que c'est toujours important de. Je suis d'accord dans le sens que c'est un débat éthique, mais ça reste je pense qu'il faut rapporter. Parce que c'est souvent, tu sais, c'est dommage à dire, mais comme, tu sais, on est tellement, tu sais, tout est tellement esthétique, tout est tellement cosmétique aussi. On va toujours être, tu sais, on voit des enfants sur je sais pas, tu as une image d'enfant à la première, là, c'est terrible, là. Tu vois un enfant, tu sais, les gros titres du Journal de Montréal, tu sais, par exemple, tu sais, j'ai une grosse caricature, par exemple, mais c'est ça qui nous accroche, puis c'est ça qui nous... C'est la corde sensible, en fait, qui fait qu'on va réagir émotionnellement, puis ça reste que des fois, en tant qu'être humain, t'as besoin de ce genre d'image-là. C'est triste d'avoir un petit enfant de 3 ans sur son corps, mais s'il n'y a pas ça, personne ne réagit. Donc, je pense que c'est aussi... C'est quelque chose de très humain de vraiment être confronté à ce genre de trucs-là. Puis que, quand c'est des enfants, on s'en est hors de nous-mêmes. Là.
C'est ça. Ouais. Donc, j'en parle justement dans ma chronique.
Ouais.
Les photos que j'ai sélectionnées, c'est vraiment.
Ben oui, des enfants. Tout le monde est pour dire qu'un enfant, ça doit vivre.
Ouais. Ouais.
Donc, il y a ça. Puis aussi, dans le sens que. Il y a beaucoup des conflits qui sont créés. Tu sais, c'est quand même, si on, dans ton exemple, c'est quand même un Occidentaux qui va dans un pays où que, comme, son pays a justement tout foutu en l'air dans ses pays. Il fait du photojournalisme, il retourne. Tu sais, je sais que c'est très, très, très nivelé vers le bas, qu'est-ce que je dis? Mais qui retourne chez lui et a annoncé à quel point c'est pas bien là. Mais c'est parce que les gens qui sont concernés le savent. Donc,
exact.
En même temps, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, dans le sens que je suis, tu sais, il faut rapporter, mais comme, OK, c'est beau de rapporter, mais c'est très cosmétique, dans le sens que les problèmes sont beaucoup plus en dessous. Puis c'est vraiment les problèmes d'une société vraiment plus grande et beaucoup plus malade que simplement d'aller, OK, oui, il y a de la famine là, mais pour quelle, il y a vraiment une raison derrière ça qui fait que, pourquoi c'est là maintenant, pourquoi ce conflit éclate là maintenant.
Exact.
Donc,
bien sûr, il y a des...
En tout cas.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'il y a vraiment le côté sensationnaliste qui fait que les choses sont comme elles sont en ce moment, mais je pense qu'il y a des solutions qui sont envisageables, puis j'en parlais récemment, de travailler conjointement avec les gens sur le terrain. par exemple, pour dire un journaliste qui, lui, va, je sais pas, sur un continent X, il va voir les personnes, puis il fait affaire avec eux directement au lieu que lui prenne les photos. Mais dire et faire ça, ça revient à un suicide dans ton emploi. C'est ce qui, grosso modo, t'enlève l'essence même de ton emploi. Alors, ça, pour des gens en journalisme, j'imagine que c'est impensable. Mais si on veut vraiment faire des actions conscientes, du moins prendre conscience de nos actions, ça serait la moindre des choses de travailler avec les gens qui sont déjà sur le terrain, qui ont une conscience parfaite, puis une connaissance parfaite de ce qui se passe. Après, c'est quand même le désir de s'informer, d'aller explorer autour de nous, c'est purement humain. De vouloir savoir ce qui se passe dans tel pays, c'est purement humain. Et ce qui est plus déshumain, à mon avis, c'est d'aller chercher la photo, d'aller chercher le truc qui va t'apporter une certaine gloire ou quelque chose qui va apporter une gloire à ton journal, qui lui va payer que pour les photos comme ça. Alors je pense que c'est là qu'on dénature peut-être le côté humain d'essayer d'apprendre à connaître mieux des autres.
Ben c'est une belle réflexion. Je pense que la chronique de Myriam aussi va nous amener à réfléchir. Je sens que Myriam a vraiment hâte de dire sa chronique. Moi, j'ai pas tant hâte de l'écouter, ta chronique, Myriam, mais j'ai vraiment hâte d'écouter notre prochaine chanson, par exemple. Yeah. Non, c'est pas vrai, j'ai très hâte d'écouter ta chronique aussi, mais on va écouter la prochaine chanson de cet artiste qui nous est tombé du ciel, en fait jusqu'aux enfers, Le Diable, comme l'outil. On écoute une deuxième chanson sur leur album Anémie 61, Laideur. We'll be right back. C'était la chanson Laideur, très laide chanson, mais, mais pas dans la musicalité, mais plutôt dans le titre.
J'aime tellement tes jeux de mots, Emilia.
Mes jeux de mots sont excellents.
Excellent.
Excellent. Donc, vous écoutez toujours La Faute aux médias sur choc.ca. Myriam, tu sautilles sur ta chaise, tu veux faire ta chronique, alors sans plus attendre. Photojournalisme, Myriam, toi qui as une formation professionnelle en photo, j'imagine que ça doit te parler encore davantage.
Effectivement, effectivement. C'est ça, je vais commencer avec donc ma chronique qui sera plus liée sur les conséquences que certaines images peuvent avoir sur la scène politique internationale. Et pendant un de mes cours, notre professeur nous avait affirmé, ça va peut-être te dire quelque chose, Émilien, que le terme d'impact était pour lui une notion beaucoup trop incertaine pour pouvoir être utilisée. Comme dans un travail de recherche, par exemple, je dois dire que je peux pas être plus d'accord avec lui. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui donc des conséquences, de ces conséquences qu'ont eu certaines images sur la scène politique internationale pendant ces dernières années. Malgré le flot incessant d'images et d'informations que nous recevons, il existe des images plus frappantes que d'autres. Des images singulières d'une violence telle qu'elles en arrivent à secouer l'opinion publique et vont jusqu'à influencer la scène politique. Alors peut-être que vous en avez déjà en tête, on en a déjà parlé pendant cette conversation, donc que ce soit celle de la petite fille au napalm qui a immortalisé l'horreur de la guerre au Vietnam en 1972, ou encore celle de l'enfant et du vautour, prise dans un village du Soudan en 1993, que Tessier a abordé plus tôt. Mais pour les besoins de cette chronique, moi je vais plutôt m'attarder sur des images vraiment récentes. La première photographie à laquelle j'ai pensé, c'est évidemment celle où on peut voir le corps sans vie d'un petit réfugié retrouvé sur une plage de Turquie le 2 septembre 2015. Il s'appelait Eylan Kurdi, il avait 3 ans et venait de Kobané en Syrie. L'historien de la photo et du photojournalisme, Pierre-Jean Hamard, avait affirmé sur les ondes de la station française Europe 1 que cette photo allait peut-être changer l'histoire. Après la diffusion de cette image, les réactions ne se font pas attendre, évidemment, et les politiques promettent de tout faire pour mettre fin à la crise syrienne. Du côté de la France, François Hollande fait l'effort d'accepter le principe de quotas de migrants dans l'Union européenne, une décision qui a été prise main dans la main avec Angela Merkel. Outre-Manche, David Cameron avait annoncé que la Grande-Bretagne allait accueillir des milliers de réfugiés supplémentaires et que des fonds seraient débloqués. Alors à ce moment-là, avec des si bonnes nouvelles, on se dit quoi ? Ben enfin, l'Union européenne décide d'agir. 9 mois plus tard, le 30 mai 2016, une autre photo vient secouer l'opinion publique, celle d'un bébé noyé dans les bras d'un sauveteur allemand. C'est une image qui intervient dans un contexte vraiment dramatique, alors que près de 900 personnes sont mortes dans la même semaine, en essayant de traverser la Méditerranée. Même réaction internationale, bien que moins vive, mais toujours ces émotions de la part des politiques, de la tristesse, un sentiment d'urgence, du moins c'est ce qui transparaît dans les discours et dans les médias. On continue notre petit voyage chronologique, cette fois nous sommes le 16 août 2016, et une image se hisse hors de l'actualité estivale monotone pour nous rappeler que le conflit en Syrie est bel et bien toujours en cours. Il s'agit d'une photo extraite d'une vidéo qui nous montre un petit garçon assis, ensanglanté, couvert de poussière, visiblement hébété, dans une ambulance après avoir survécu à un raid aérien qui a lieu à Alep. Son nom est Omran Darnesh, il avait 5 ans au moment de l'attaque. La photo est évidemment partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux et toujours ces mêmes réactions, toujours ces émotions vives. Le gouvernement des États-Unis se joint à cela et le porte-parole du département d'État de l'époque, John Kirby, affirme alors « Pas besoin d'être père, mais je le suis » et de continuer en disant « Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ça et de voir que c'est le vrai visage de ce qui se passe en Syrie. » Alors qu'est-ce qui se passe depuis ? Hein ? Bonne question. Quelles sont les conséquences de ces images sur les politiques en matière d'accueil des réfugiés ?
C'était ça mon spoiler de tantôt.
Ah, exact, c'est ça. En Europe, en tout cas, la France a vite fait de reculer sur ses promesses, notamment après les attentats du 13 novembre, et est passée d'engagement humanitaire à urgence sécuritaire. Pour Manuel Valls, qui était le Premier ministre de l'époque, il n'était plus question d'accueillir des réfugiés en Europe parce que c'était trop risqué. L'Allemagne et la Finlande faisaient alors figure d'exception, jusqu'à dépasser les chiffres qui étaient prévus pour le cas de l'Allemagne. Ça a eu plusieurs conséquences, donc non seulement des infrastructures complètement surchargées, mais aussi une opinion publique très divisée. Angela Merkel s'est alors retrouvée isolée sur la scène politique de son propre pays, mais aussi au niveau international. Du côté des Britanniques, David Cameron avait assuré que le Royaume-Uni allait en faire plus, comme je vous le disais, accueillir plus de réfugiés, débloquer des fonds. Mais entre-temps, le Brexit est passé par là, et avec lui un objectif de fermeture des frontières en tête de gondole. Du côté du Canada, Justin Trudeau avait fait de l'accueil des 25 000 réfugiés une de ses promesses de campagne. Une promesse qui a été repoussée, mais finalement quand même respectée, notamment grâce à un système de parrainage privé. Mais je dois vous dire, ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas assez, surtout quand un rapport délivré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés nous apprend que le nombre de femmes, d'hommes et d'enfants déplacés à travers le monde suite à des guerres, des violences et des persécutions a atteint le nombre de record de 65 600 000 personnes à la fin de l'année 2016. Alors, peut-être que vous l'avez relevé, puis j'en avais parlé tout à l'heure, mais le point commun de ces trois images, qu'est-ce que c'est ? C'est que je parle toujours d'un enfant. L'enfance cristallise les drames et on pourrait alors croire que cela suffit à secouer l'opinion publique et à réveiller les gouvernements sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des conséquences de la diffusion et du partage massif de ces images. Mais en fait, je me suis rendu compte au fil de ma rédaction, au fil de mes recherches, que j'allais surtout vous parler d'absence de conséquences, avec des promesses très limitées et vite oubliées. Certaines actions ont été réalisées, oui, mais par une petite poignée de pays qui se retrouvent isolés sur la scène internationale. Pour conclure, je pourrais dire que la photographie a le pouvoir de susciter des émotions, certes, mais force est de constater qu'elle n'a pas le pouvoir d'atteindre les gouvernements et les décisions étatiques. Alors, les émotions restent, mais ne font visiblement pas de place au changement et à la solidarité internationale.
Quelle réflexion, Myriam. J'ai justement eu des cours de relations internationales, d'éthique des relations internationales cette session. Puis ça, je prends la balle au bon, là.
Très bien, vas-y.
La moralité des relations internationales. C'est un concept intéressant.
C'est un concept extrêmement intéressant.
Peut-être que Étienne va vouloir en dire un mot.
Ben, ça dépend si tu te revendiques un réalisme, un réaliste en relations internationales ou plutôt un libéral. C'est sûr que si tu te revendiques du mouvement, de l'approche réaliste, tu vas dire bah des morts, il va toujours en avoir, la guerre, il va toujours en avoir, c'est le caractère de l'humain. Alors, des enfants, des photos, il va toujours en avoir. Puis, la seule façon de régler la guerre, c'est que les puissances deviennent tellement grosses, hégémoniques, qu'ils réussissent à imposer leur vision, un peu comme les États-Unis le font en ce moment. Puis si t'es un libéral, bref, il y a d'autres approches, mais je pense que les relations internationales, la morale, c'est vraiment quelque chose de flou. Là.
Oui, c'est très abstrait, c'est très différent aussi. Puis des personnes qui sont individuellement très morales, par exemple, on pense à Barack Obama. Il y a personne ici qui remet en doute le fait que Barack Obama aime ses enfants, Barack Obama a une sensibilité envers les plus démunis, il a travaillé toute sa vie comme avocat auprès des plus pauvres à Chicago. Je veux dire, c'est une personne qui semble être morale de prime abord, mais il a quand même commandé des attaques aux missiles et aux drones.
Effectivement.
Je sais plus c'était quoi les chiffres, là, mais c'était beaucoup plus que son prédécesseur, George W.
Oui,
Bush, qu'on considérait comme plus amoral que lui.
Ouais.
Donc, il y a vraiment comme une espèce de scission entre la personne qui est au pouvoir, puis c'est son champ d'action à l'international qui est assez intéressante.
Ben oui. Moi, je pense que c'est super intéressant comment on est capable de mettre un personnage de l'avant, puis comment qu'on est capable de s'identifier finalement à cette personne-là, que finalement, cette personne-là n'a rien à voir avec, avec nous, qui... le pouvoir de l'image, par exemple. Moi, la chose que je trouvais très intéressante dans ta chronique, c'est vraiment le fait de matérialiser les enfants, puis de les montrer comme un outil carrément pour pouvoir partir en guerre ou pour pouvoir assouplir des politiques, des choses comme ça. Moi, je pense que pas nécessairement dans le même contexte, mais tu sais, la chose que tout le monde a entendu parler ici au Québec, l'affaire Cédrica Provencher, par exemple, qui a fait des manchettes pendant des semaines et des semaines. Tu sais, il y a carrément un Québec avant Cédrica, puis un Québec après. Puis aussi, la même chose, moi, que j'ai découvert cet été sur l'affaire Grégory en France.
Oui, oui.
Tu sais, c'est des choses qui marquent l'imaginaire collectif. C'est des choses que ça devient carrément, tu vas parler à n'importe qui de ce petit ou de cette petite, puis tout le monde va s'en rappeler. Donc,
ça s'inscrit dans l'histoire.
Ça s'inscrit dans l'histoire, puis c'est des, dans le sens que c'est des crimes, oui, qu'il faut bien sûr
condamner,
mais dans le sens que c'est des crimes qui arrivent aussi un peu tous les jours dans un peu partout, quoi. Tu sais, dans le sens que...
Bon, mais c'est mettre les gens devant leur propre contradiction aussi, ce genre de photographie-là. On peut parler de ces situations-là, parce que le commun des États-Unis n'est pas contre la vertu, là, on s'entend.
Ah non, c'est sûr.
Le commun des États-Unis vit sa vie, puis veut pas du mal à des enfants, puis veut pas du mal à... Tu sais, les Syriens, ils leur veulent pas du mal, les Irakiens, ils leur veulent pas du mal, mais c'est ce qui est fait par extension à travers le bras de l'État, puis le bras de l'intervention militaire à l'extérieur. Puis c'est la même chose, là, il y a des contradictions à tous les niveaux. Au niveau juste de notre alimentation, ben, je suis pas végétarien, puis je l'assume, là, mais je veux dire, acheter son steak à l'épicerie, c'est pas la même chose que dégorger le bœuf, là. Puis on s'entend,
ouais,
c'est quand on voit des personnes qui regardent un documentaire sur l'industrie animale est content de voir des animaux se faire tuer.
Ah non, mais ça, on veut pas le voir. C'est ça qui est intéressant aussi avec le photojournalisme,
c'est
qu'on nous montre à voir des choses qu'on veut pas forcément voir.
Exact.
Ouais.
Donc, je pense que c'est une des forces du photojournalisme, c'est de nous mettre devant nos propres contradictions. Ben voilà, t'es pour aider ton prochain, t'es contre la violence, mais voilà ce que ton État fait à l'international, puis tu devrais pas être d'accord.
Mais tu sais, l'image de l'enfant fait vraiment consensus dans le sens où, que tu sois à gauche, à droite, peu importe où tu te situes, tout le monde va te dire c'est dégueulasse. Mais si on te montre un combattant kurde mort, les gens vont dire il a fait le choix, il a décidé de se battre, donc forcément, il est peut-être méchant. C'est des jugements embarquent, tandis que l'enfant, c'est la vulnérabilité, c'est vraiment l'idée.
L'enfant, c'est neutre, l'enfant, il demande qu'à vivre, c'est exactement ça. Ouais.
Et toi, Ryan, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à ça?
Oui, ben en fait, je peux comprendre un peu les gouvernements, en fait, quand ce genre de photos sortent, ils réagissent sur le fait et tout.
Ils n'ont pas le choix.
Oui, bah oui, ouais. C'est sûr, ils vont mettre des dispositions en place, etc., etc. Mais je peux comprendre aussi qu'après, ils se rétractent parce que, en fait, j'ai eu un cours de sociologie il n'y a pas longtemps. Et en fait, on voyait que, en France, par exemple, quand un immigrant clandestin arrive sur le terrain, sur le territoire français, il a vraiment beaucoup de droits. Il a des droits qu'on n'imagine pas. Oui. Genre, il a des droits, il a des allocations, il a plein de choses qu'on n'imagine pas. Et en fait, je me dis, après, je peux comprendre que le gouvernement français dise « Bon, on va se calmer au niveau des réfugiés d'un seul coup comme ça, parce qu'il y a aussi des filets sociaux que les Français ont, auxquels les Français ont droit et les citoyens non-français ont droit. » Donc si après il y a plus de monde qui vient, après c'est sûr que ça réduit la part pour les gens normaux. Enfin les gens normaux, quand j'ai les citoyens français. Donc après c'est, est-ce que je préfère protéger ma population d'abord ou protéger toute la population du monde? C'est un peu contradictoire, enfin c'est un peu un choix compliqué que je peux comprendre. C'est comme, ok, je vois des itinérants tous les jours. Est-ce que je suis capable moi de prendre la décision de leur donner à chacun de l'argent tous les jours, et donc moi de vivre moins bien, ou le contraire? Je pense pas que tout le monde...
Mais je pense que c'est une analyse, je m'excuse, mais c'est une analyse un peu simpliste, et il faut aller dire aux... D'ailleurs, réfugiés, migrants, c'est pas la même chose, on pourra en parler à une autre émission, mais il y a une différence à faire. Mais il faut aller dire aux gens qui sont dans les camps en France qu'ils ont droit à quoi que ce soit. Ils sont traités comme moins que des animaux. Je veux dire, ils ont rien, ils ont droit à rien. Je pense qu'il faut faire la différence avec, par exemple, les réfugiés politiques ou ce genre de statuts qui sont quand même différents. Quand t'arrives en France illégalement, t'es personne, clairement.
Oui, puis moi, je pense que ça fait partie aussi d'une espèce de... Ben, c'est tout le problème du bouc émissaire, en fait. Je pense que souvent, on pointe du doigt... parce que, par exemple, au Québec, il y a eu la crise, entre guillemets, là, des nombreux Haïtiens qui tentaient de traverser la frontière là, pour venir s'installer au Québec parce qu'aux États-Unis...
Moi aussi, j'aurais quitté Trump.
Oui, parce qu'aux États-Unis, c'est ça, c'était pas possible là, avec Trump qui veut les renvoyer en Haïti. Puis ils sont là depuis le tremblement de terre, là, depuis 10 ans. Mm. Puis ces gens-là qui arrivent à la frontière, bon... Là, au Québec, il y a un gouvernement néolibéral qui coupe dans les programmes sociaux, dans l'éducation, etc. Donc, les personnes âgées ont pas le droit d'avoir accès à des bains, à des soins de qualité, mangent pas bien dans leurs habitations. On coupe le chèque des assistés sociaux. On coupe dans toutes les sphères de la société où on peut couper de l'argent pour faire des cadeaux à nos petits amis riches. Puis, au final, on dit, ben là, les immigrants, ceux qui arrivent sur le territoire de façon irrégulière, illégale, peu importe, ben pourquoi est-ce que nous on paierait quand on n'est même pas capable de se payer collectivement des programmes sociaux qui ont de l'allure ou des soins de santé, tout ça? Mais je pense que là, c'est là qu'il est le problème, c'est que cette société néolibérale-là qui en fait est la source du problème.
Bien sûr, c'est exactement ça.
Nous pointe du doigt des immigrants, parce que évidemment que l'immigration, l'immigration de masse, les réfugiés, c'est pas une solution à long terme, parce que il y a personne qui veut quitter son pays à la base là, c'est qu'ils sont forcés de quitter pour toutes sortes de raisons. C'est pas une solution à long terme. Tout le monde peut pas juste quitter les pays en guerre. C'est des problèmes beaucoup trop complexes. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Faudrait qu'on se refasse une autre émission là-dessus. Mais l'un des plus grands mensonges de l'État néolibéral, c'est que c'est de la faute des individus, que c'est de la faute des autres.
Et encore mais plus c'est quand jamais c'est de la des faute. Étrangers.
Encore plus quand c'est des étrangers. Alors qu'au final, c'est l'industrie, c'est les millions.
Mais c'est tellement absurde parce que c'est les politiciens qui mettent cette dualité-là en disant eux et nous et
nous et les autres
en opposant tout ça. Alors que si on prend l'exemple du Québec, les Québécoises, nos ancêtres ont été des vagues d'immigration. Ça a été des Irlandais qui ont quitté à cause de la famine. Ça a été les Écossais. Ça a été les Amérindiens qu'on a chassés de leur terre. Tu sais, on est un peuple où les immigrants, ils sont venus à cause des crises. Puis à l'époque, je comprends pas aujourd'hui pourquoi on dit ça, mais à l'époque, on disait pas « Oh non, retournez chez vous. On a pris une partie de ceux-là. Ils sont intégrés. Oui. » Puis on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Alors...
Faut juste voir qu'est-ce que Trump dit puis qu'est-ce que Reagan disait. Reagan, c'est de la droite idéologique dure. Mm-hmm. Mais il disait quand même « Venez aux États-Unis, il y a une chance pour vous. » Alors qu'on est dans un tout autre paradigme aujourd'hui.
C'est vrai.
Bref, je suis vraiment désolé, mais il nous reste 2 minutes, puis on pourra même pas écouter au complet la dernière chanson de notre groupe favori.
Oh non, c'est quoi déjà le nom de
notre groupe? C'est Le Diable comme l'outil.
Et le nom de la chanson?
Le nom de la chanson, ben là j'hésite, est-ce qu'on fait un vote? On a la chance d'écouter Char Cheval ou Salut Pimeur, mais Salut Pimeur, on pourra pas l'écouter au complet.
Char Cheval.
Char Cheval?
Yes.
Ouais, moi,
c'est ta préférée en Tessie.
C'est ma préférée, mais on y va avec ça.
Parfait, ben merci beaucoup d'avoir été là.
Merci.
Ryan Roumig. Pierre, Étienne Tardy-Paradis, Myriam Bernet, Tessie Jean-Paul, ainsi que moi-même, Émilien Roscanou. On se revoit la semaine prochaine? Non, dans 2 semaines.